Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Tout de suite, nous accueillons donc notre invité pour ce dossier santé du jour. C'est le docteur Gilbert Zakine. Bonjour docteur.
Bonjour Julia, bonjour Mélanie. Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes chirurgien, plasticien, membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Et on va parler de fesses. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est si important pour les gens d'avoir de belles fesses? On a l'impression que c'est quelque chose qui est surtout à la mode au Brésil. Mais en France maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une vraie demande?
Absolument. Alors, cette demande est arrivée progressivement, mais elle est de plus en plus forte.
D'accord. Ça veut dire que même en France, par exemple, c'est devenu un objet de séduction, comme à l'époque on entendait faire beaucoup plus de chirurgie de seins, par exemple. Mais vous avez de plus en plus de demandes pour des fesses?
Absolument, et je crois que ça a toujours été un objet de séduction, hein, Mélanie. Depuis l'aube de l'humanité, c'est la bipédie, le fait de se tenir debout et de marcher qui caractérise les premiers hommes, parce que ça libère les mains, mais ça permet de sculpter les fesses. La fesse n'appartient qu'à l'homme, disait Buffon. Et tout le monde connaît la plus ancienne statuette humaine, 23 000 ans, la Vénus Callipyge, cette femme, vous savez, que ses formes très très généreuses, et on la voit, elle est un symbole de sensualité, de beauté, de fertilité.
Oui,
donc ça date pas d'hier.
Voilà. Ça date pas de Kim Kardashian, pour
non, résumer. C'est bien plus ancien. Et je pense que c'est là, au finir, je pense que c'est l'offre qui crée la demande dans ce cas-là, et pas l'inverse.
L'offre,
c'est-à-dire que c'est grâce aux progrès de la chirurgie, qui sont relativement récents, qu'on a aujourd'hui des demandes. D'accord. Sinon, on les aurait peut-être eues bien avant.
D'accord. Et on fait combien d'interventions au niveau des fesses en France chaque année? Est-ce qu'on a une idée?
Oui, tout à fait. Alors, il y a ici les chiffres de l'ISAPS, c'est la Société Internationale de Chirurgie Plastique. En tout cas, dans le monde, actuellement, on est à peu près à 500 000 d'interventions de fesses, qui est absolument énorme. C'est 4% des interventions de chirurgie plastique.
4%, d'accord.
4%, donc c'est devenu pas mal. En France, on avait en 2016 à peu près 4 000, on va dire, grosso modo 4 000 interventions d'augmentation des fesses. Et en 2019, ça s'est multiplié par 2. On est à peu près à 8 000, donc une augmentation de 50%.
Et là, vous parlez d'augmentation des fesses.
Alors, augmentation des fesses, et je parle à la fois de l'hypofilling, c'est-à-dire, vous le verrez,
on va détailler ça.
On aura le temps de le détailler, c'est-à-dire la réinjection de sa propre graisse, et d'augmentation des fesses par implant, en sachant qu'on a à peu près une dizaine de lipofilling de fesses pour un implant.
D'accord.
Quel est le profil des femmes qui demandent ce type d'intervention? D'ailleurs, je dis femmes, mais peut-être qu'il y a des hommes aussi, je ne sais pas.
Alors, il y a beaucoup moins d'hommes, hein. Ça, on en parlera. Mais
elles ont quel âge à peu près?
Alors, ouais. elles sont plutôt jeunes, je dirais entre 20 et 50 ans. Mm-hmm. Donc, c'est quand même très large, hein. Donc, c'est plus des jeunes parce que la mode les touche peut-être un petit peu plus, mais ça peut être aussi des patientes de certain âge qui ont perdu du poids, dont les fesses s'affaisse avec le temps, elle se creuse, donc ça peut être de très bonnes indications, en particulier pour un lipofilling.
Dites-moi, il y a forcément une période de l'année qui est plus propice à se faire opérer des fesses.
Moi, je dirais maintenant. Hein,
oui.
Là, il n'y a pas de maillot de bain en ce moment.
On a le temps de récupérer pour montrer ses fesses cet été. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de moment particulier.
D'accord.
Et on peut le faire absolument toute l'année. Simplement, il faut prévoir au moins un mois et demi après une mise en place d'un plan et au moins un mois avant de partir en vacances et s'exposer sur la plage.
Avant, on ne peut pas montrer ses fesses.
On peut les montrer, mais dans l'intimité, je dirais.
Oui,
ça vous arrive de... Vous dites donc que c'est quand même en pleine augmentation, ce type d'intervention, en tout cas la demande. On se doute, elle a cité tout à l'heure Julia Kim Kardashian, effectivement, et il y a d'autres influenceuses, aujourd'hui des jeunes qu'on voit comme ça sur les réseaux sociaux avec des popotins énormes. Et donc, il y a une mode. Est-ce qu'il y a de très jeunes filles qui viennent vous demander ce type d'intervention et que vous devez peut-être refuser, parce que j'imagine que vous n'intervenez pas à 15 ou 16 ans?
Alors, il y a des très jeunes filles, évidemment. Évidemment, et il faut les recadrer parce que notre rôle est d'opérer, bien entendu, de répondre à la demande, mais aussi de les recadrer, de parfois refuser. Alors, des mineurs, tout de suite, bon, moi philosophiquement, je les refuse, surtout pour les interventions de chirurgie esthétique, pas en chirurgie réparatrice, bien sûr, ou constructrice, mais esthétique certainement. Aussi parce que les jeunes, souvent, ont un trouble de l'image corporelle, ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Elles pensent être laides, alors qu'elles peuvent être très jolies. Elles pensent avoir un défaut, alors qu'elles n'en ont pas vraiment. Donc, il faut savoir attendre et puis bien cadrer la demande. Et concernant Kim Kardashian, il faut expliquer aussi aux patientes qu'un certain nombre de photos de mode sont retouchées.
Oui, ce n'est pas forcément des fesses suite à une intervention.
Exactement, ça peut être, c'est des fesses après Photoshop.
Oui.
Ça, il faut leur expliquer parce qu'on voit des fois dans les magazines des choses qui paraissent totalement impossibles. Mmh. Des tailles extrêmement fines avec des fessiers absolument énormes.
On dirait que ça va se casser. On dirait ça, moi, ça fait peur.
Non, mais c'est simplement impossible. Donc, c'est des photos aussi retouchées. Donc, tout n'est pas possible. Et ça, c'est à nous à l'expliquer. Et puis, c'est patiente par patiente, bien sûr.
D'ailleurs, parce qu'il y a des seins qui sont en forme de poire, de pomme. Pour les fesses, il y a différentes formes de fesses?
Oui, alors on va dire classiquement, on distingue la forme en A, en O, en H et en V.
Alors, faut nous expliquer.
Alors, je vous explique. En O, c'est joli, c'est des petites formes rondes. En H, c'est des formes un petit peu carrées, un peu comme des fesses d'hommes. Vous évoquez les hommes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de demandes, parce que bon, l'homme fait peut-être un peu moins attention à ses fesses, ou la femme est peut-être plus tolérante pour le vieillissement de l'homme, ça c'est vrai aussi. Mais aussi, surtout, parce que la fesse de l'homme est sculptée par ses muscles. Donc, on ne va pas réinjecter de la graisse. Et si on le fait, il faut être extrêmement prudent parce qu'on risque de féminiser la fesse.
Ah oui, nous, on a moins de muscles que les hommes dans les fesses. Enfin,
alors,
on a plus de graisse, plutôt.
Que j'ai dit. Ouais. Bon, il y a un peu moins de muscles, oui, bien sûr. Mais il y a plus de graisse et des formes différentes. Les hanches sont plus larges. Et une forme idéale, c'est la forme, alors je dis en forme de A, mais c'est en forme de cœur inversé. C'est piriforme. Piriforme, ça veut dire en forme de poire. Et vous voyez tout à fait la forme de cœur inversé.
Ah oui, c'est beau.
Ça doit être beau. Enfin, en tout cas, on se fixe ça comme objectif en fin d'intervention. Et je vous l'expliquerai, mais qu'on place des implants ou qu'on réinjecte de la graisse ou qu'on fasse les deux, parce qu'on peut faire aussi ces deux interventions combinées, on va rechercher à avoir une courbe juvénile attractive et belle. Voilà.
Ah oui. Alors, docteur Zakine, on va continuer cet entretien dans quelques minutes et on va rentrer un peu plus dans le détail, justement. Que peut-on réellement proposer aujourd'hui pour avoir des fesses plus rebondies, plus lisses même, peut-être? Qui sait, faut-il systématiquement passer au bloc pour des implants ou y a-t-il d'autres méthodes moins lourdes? On va vous détailler tout cela sur Europe 1.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé et surtout de votre bien-être ce matin. Si vous êtes complexé par vos fesses, leur forme, leur épaisseur, vous êtes au bon endroit. Et puis si elles vous conviennent très bien, vous êtes aussi au bon endroit parce qu'après tout, on apprend beaucoup de choses ce matin avec le docteur Gilbert Zakine, chirurgien plasticien, membre de la SOFCEP, la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens. Alors docteur, passons au vif du sujet, à l'aspect technique je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention pour augmenter le volume des fesses, puisque c'est la principale demande, j'ai bien compris. Je crois qu'il y a déjà donc des injections de graisse, ce que vous appelez le lipofilling, c'est bien ça ?
Exactement, lipofilling, alors ce qui est appelé aussi le BBL, le Brazilian Butt Lift.
Le BBL.
Qui est une mauvaise appellation, mais enfin bon, ça. L'intervention va consister à prélever de la graisse là où il y en a trop et la réinjecter là où elle est manquante, c'est-à-dire dans la fesse, pour augmenter le volume de la fesse et le remodeler. Donc ça va non seulement augmenter le volume, mais ça va améliorer la forme et la silhouette.
Mais ça veut dire qu'on peut se faire une liposuccion de quelque part.
Il faut faire une liposuccion. On ne peut pas réinjecter. C'est forcément votre propre graisse.
Ah, c'est la graisse celle de Mélanie. Oui, parce alors, c'est que j'en ai un bon impossible. Stock, alors je pensais récupérer la mienne.
Si on s'amuse à faire ça, ça finirait très mal. C'est impossible parce que la graisse serait évidemment rejetée. Ah. Hein, c'est des cellules, c'est pas vos propres cellules.
C'est autologue.
Donc
là,
c'est forcément autologue. Les cellules, il faut le faire tout de suite. Alors il y a des études qui ont montré qu'on peut la garder, la congeler, mais ce serait pas efficace. En tout cas, c'est pas autorisé aujourd'hui. Ça n'a aucun intérêt. Donc on va réinjecter durant la même intervention la graisse. On va la travailler parce
durant
que...
la même intervention.
Oui.
Donc, vous pouvez me prendre dans la même intervention la graisse de mon ventre.
Vous la
prendriez
dans les fesses. Voilà,
alors, non seulement le ventre, alors c'est en fonction de la patiente. On leur demande qu'est-ce qu'elles aimeraient enlever. Alors le plus souvent, ça va être le ventre, les cuisses, les flancs, les hanches, le dos, le sacrum, qui est très important de sculpter, de recréer cette cambrure qui est très jolie et sexy au-dessus des fesses. Et cette graisse qu'on va purifier par 3 lavages, par une décantation, par une émulsification.
Oui, elle est travaillée, cette graisse.
Travaillée, on obtient un volume qui est 2 fois inférieur au volume prélevé.
Donc
il faut en prélever suffisamment. Et deuxième élément, il faut surcorriger. Quand on a l'habitude de le faire, on sait qu'il faut surcorriger parce qu'il y a une petite perte qui est à peu près d'un quart ou d'un cinquième de la graisse réinjectée qui peut être plus importante. Si vous la réinjectez comme ça sans la travailler, c'est une perte de plus de la moitié. La semaine dernière, j'ai posé 7 litres sur une patiente et je lui ai réinjecté à la fois les fesses et les seins.
Ça l'a fait rêver, Julien, 7 litres.
Là, il n'y a pas de 7 litres enlevés chez vous, de toute façon.
Non, mais même 2 litres, c'est génial. On peut s'en mettre dans les seins, on peut s'en mettre un peu
partout. Mais alors, c'est limité. Hein. Je vous l'expliquerai après, c'est limité au niveau des volumes. On ne peut pas dépasser un certain volume. Et de toute façon, après, à un moment donné...
7 litres, c'est un peu le max, quand même, non
7 litres, c'est... Attention, le max, en gros, de ce qu'on peut retirer, mais ça ne va pas être ce qu'on va réinjecter. Le maximum de ce qu'on peut réinjecter, ça va être à peu près 1 litre par fesse. Alors, certains font plus. Ça dépend de la demande de la patiente et du résultat qu'on veut obtenir.
Et on peut le faire que si la patiente a de la graisse. Parce qu'il y a des femmes très fines.
Une femme
rien
très fine
chercher,
qui n'a pas de graisse, c'est pas la peine d'essayer de lui proposer un lipofilling. Ça ne marchera pas.
Alors, qu'est-ce que vous faites
Alors là, c'est des implants. On va lui proposer des implants mammaires. Des implants fessiers. Alors, ça peut être les deux, mais enfin, il faut éviter de faire les deux en même temps. C'est trop lourd. Donc, des implants fessiers. Et on peut même combiner. Et ça, c'est assez récent. Ça donne de très beaux résultats naturels. l'implant fessier et l'injection de graisse. Parce que l'implant fessier va augmenter le volume dans la partie centrale et haute de la fesse, et l'injection de graisse va combler le défect, le petit creux latéral, et ça donnera un résultat magnifique, très naturel.
Alors vous avez dit que vous mettez donc des implants fessiers, oui. Pas des implants mammaires, oui. Mais c'est le même type de produit, sont faits en quoi ces implants?
Non,
ils n'ont pas la même taille,
alors,
j'imagine.
Pas tout à fait.
Il y a plusieurs tailles.
C'est du silicone, mais c'est des gels beaucoup plus cohésifs, c'est-à-dire beaucoup plus fermes, parce que dans les fesses,
c'est plus solide, parce qu'on s'assied sur les fesses.
On s'assied
hein,
dessus, il y a plus de choc, ça doit être plus solide. Les implants sont plus durables aussi, la durée de vie moyenne d'un implant mammaire, c'est 10 ans, c'est un peu plus que 10 ans.
Hein, les laboratoires
nous conseillent de les changer. Oh, les fesses, on est sur du 20 ans, 25 ans en règle générale. Donc quand on les met, souvent, on va les retirer s'il y a un problème, si la patiente n'en veut plus au bout de 20 ans.
Sinon,
on les garde. Voilà, on va les garder.
Alors pour celles qui veulent au contraire réduire la taille de leurs fesses, qu'est-ce que vous faites là? C'est une hypo? Il n'y a que ça à faire?
Alors là, il n'y a pas vraiment de réduction de la taille des fesses. En fait, ce que vous appelez la taille des fesses, c'est la graisse qui est autour.
C'est la culotte de cheval.
Voilà,
quoi.
Exactement. C'est-à-dire, c'est les hanches, c'est les flancs. Et c'est important de le faire, surtout quand on augmente le volume. On va augmenter le volume des fesses et on va retirer la graisse qui est au-dessus et parfois sur les côtés de la culotte de cheval. Alors, pas trop. Hein. Aujourd'hui, la culotte de cheval est un petit peu à la mode, surtout si on fait des grosses augmentations fessières. Donc, des fois, même, on réinjecte de la graisse dans ce qu'on appelle la culotte de cheval pour avoir cette forme, justement, de cœur inversé. Mais on ne va pas lipoaspirer elle-même la fesse, sinon elle va se creuser sa fesse et vieillir.
Ah bon ? Donc,
la fesse, on n'y touche pas. C'est sacré, on ne touche pas la fesse. On n'enlève pas la graisse de la fesse.
Alors je reviens sur les implants, oui. Parce que moi j'aime bien la technique et j'aime bien le bloc. Au bloc opératoire, ça se passe comment? Vous les rentrez par où les implants?
Alors les implants,
sont les cicatrices?
Alors on fait une petite incision, évidemment la cicatrice doit être masquée, hein, donc on la met dans le pli interfessier.
Il y a
différentes techniques, soit on fait une seule incision, soit on en fait deux un petit peu décalées. En tout cas, c'est toujours dans le pli fessier.
Et on ne la verra pas, a priori.
Non, on ne le voit pas. On ne verra pas cette incision et on va placer les implants. Alors il y a différentes techniques, je ne vais pas refaire l'historique, hein, au début. C'était sous la peau, c'était catastrophique, les implants étaient visibles. Puis après, il y a des auteurs au Brésil qui ont mis des implants sous le fascia, entre le muscle et le fascia musculaire. Ce n'est pas bon non plus. D'autres en profondeur, c'est dangereux pour le nerf sciatique.
Non,
l'idéal, c'est intramusculaire. C'est un petit peu plus difficile que l'implant du sein qu'on place sous le muscle ou sur le muscle, mais pas dans le muscle. Pour l'implant fessier, on le place dans le muscle. On va cliver le muscle, donc ce n'est pas un plan de décollement anatomique. Alors ça fait un petit peu mal,
ouais.
C'est pour ça que ça fait un petit peu mal. Mais c'est là qu'il faut le mettre, parce que l'implant n'est pas trop profond, il n'est pas trop superficiel, il est recouvert, protégé par le muscle, donc il n'est ni visible ni palpable.
Mais
c'est là
que, voilà. Si on est actif, qu'on travaille, hein, par exemple, oui. Quand on fait ce type d'intervention, on est d'accord, on ne peut pas aller travailler pendant quelques temps,
pas
il vaut mieux
suite.
S'arrêter
alors,
un petit peu.
10-12 jours. Alors il faut
sur
distinguer,
vacances,
alors, attention,
ou...
il faut distinguer les implants et l'hypofilling. Alors moi je fais surtout, je fais des implants bien entendu, mais je fais surtout l'hypofilling. J'ai 20 fois plus
en
de demandes
de
lipofilling.
Oui, des
mais
implants.
Même au Brésil,
ouais.
Si on regarde, je connais la plupart des injecteurs et puis des poseurs d'implants dans le monde, en Amérique du Sud en particulier, ils ont tous eu cette même courbe de progression. Au début, mais c'était surtout des implants. Et quand l'hypofilling est apparu, on a commencé à maîtriser ces techniques de purification de graisse et de réinjection.
C'est plus naturel, quoi.
C'est plus naturel, c'est moins risqué. Ça a permis en plus de traiter les excès graisseux. Donc ça fait un remodelage complet de la silhouette et c'est assez absolument extraordinaire.
Quand vous dites c'est moins risqué, pourquoi les implants c'est risqué?
Alors, c'est les suites, hein, les complications. Il n'y a pas de risque vital, mais les complications sont plus fréquentes, en particulier la désunion de la cicatrice.
C'est quoi ça, la désunion de la cicatrice?
C'est-à-dire l'ouverture de la cicatrice.
Oui.
C'est jusqu'à 10 à 15% des séries publiées, donc c'est pas rien. Donc on n'est pas obligé d'enlever l'implant, ça résiste mieux à l'infection, paradoxalement. Mais il y a un suivi un peu plus compliqué qu'avec un implant.
Et ça n'arrive pas avec le lipofilling, la graisse?
Alors ça n'arrive pas, mais attention, je vais quand même dire une chose. Le lipofilling entre de bonnes mains, d'un chirurgien qui a l'habitude, c'est pratiquement sans risque. Par contre, il y a des risques et il y a même eu des décès. Après l'hypofilling, il faut le savoir, c'est même aujourd'hui l'intervention la plus dangereuse.
Ah bon ?
En fait, alors je dis, même si ça effraie les patientes, mais c'est la réalité, on a à peu près un décès pour 3000 l'hypofilling, ce
quand
qui
même.
Est énorme.
Bah oui.
Alors que toute opération de chirurgie esthétique confondue, c'est 1 pour 55 000.
Alors pourquoi ?
Alors, je vous explique, c'est très simple. Si le chirurgien n'a pas l'habitude de le faire, ou est maladroit, s'il injecte dans le muscle, alors qu'il doit injecter la graisse absolument au-dessus du muscle, il risque d'injecter de la graisse de façon malencontreuse dans une veine glutéale, une des veines.
Là, on a très
veine,
peur. Hein.
Ah non, mais oui, mais il faut
alors
quand
comment
même
comment choisit bien son chirurgien
Bon, il faut, oui, voilà,
le bouche à oreille, il faut savoir.
Membre de la SOFSEP, déjà, c'est bien. L'immense majorité des chirurgiens français sont très bien formés. Et ils ne vont pas faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas.
On a le droit de demander à son chirurgien, vous en faites souvent des fesses, vous
Bien
c'est
sûr,
ça,
il faut
aussi.
Lui demander. Et puis, bon, ceux qui n'aiment pas ça, ils n'en font pas. Mais une fois qu'on a compris ça, ce n'est pas très compliqué.
D'accord. D'accord.
Simplement, il faut le savoir. Voilà, il faut simplement le savoir. Alors, combien ça coûte ? Alors, c'est variable. On va dire, pour un lipofilling complet, on est plutôt dans les 8000 euros, entre 8000 et 9000 euros.
Mais pas parfait.
Non, bien sûr, ce serait pas très élégant de le présenter comme ça.
D'accord.
Non, bien sûr. Et ça inclut.
Alors, je vous fais la droite, l'année prochaine, quand vous aurez le budget, je
donc,
vous fais la gauche.
C'est assez coûteux parce que c'est une opération qui est longue et qui inclut en fait la lipoaspiration de toutes les zones et la réinjection de graisse. Donc,
c'est combien de temps au bloc à peu près tout ça ?
Alors, c'est variable, mais ça va être entre 2 et 3 heures si on veut travailler correctement.
Bon, et le résultat final, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien récupéré, qu'on peut s'asseoir à nouveau sur ses fesses, on l'a vraiment, parce que je sais qu'en général, il y a de l'œdème au début, donc au bout de combien de temps on peut considérer qu'on a le résultat final ?
Alors, on va le résultat final une fois que l'œdème est parti et une fois que la graisse qui ne prend pas, c'est-à-dire les 20 ou 25% de graisse qui ne prennent pas, sera partie. Et là, on va dire 2 mois. Alors, je préfère dire 3 mois pour être prudent, mais c'est vrai qu'on a une très bonne idée du résultat à 2 mois.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Jacqueline, d'avoir accepté notre invitation. Celles ou ceux qui voudraient améliorer ou changer quelque chose au niveau de leurs fesses ont toutes les infos en main désormais. Merci encore, docteur.